Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors, nous sommes là en plein dans la commémoration de la révolte du ghetto de Varsovie, donc qui a commencé le 19 avril 1943, et c'est les 80 ans de cette révolte, qui a donc duré jusqu'en mai 1943. C'est en mai, donc au bout d'un mois, que les Allemands ont jugé que c'était la fin de l'insurrection et le ghetto a été quasiment rasé. Et c'est aussi là qu'on a fait exploser la synagogue, la très belle synagogue réformée, une synagogue moderne qui était sur la rue Tlomatskaya, où il y avait également l'Union des écrivains, et la maison de l'Union des écrivains a survécu, n'a pas été détruite, et elle est maintenant l'endroit où il y a les recherches historiques sur les Juifs de Pologne. Mais la très belle synagogue, elle n'a pas survécu. Elle a été rasée,
reconstruite.
Et pas reconstruite. Non. De toutes les synagogues de Varsovie, la seule qui a survécu, si je puis dire, qui est restée intacte, et celle, il y en a une parce qu'elle a servi d'entrepôt pour les Allemands, et elle a été, bien sûr, après la guerre, rénovée, et elle est toujours en activité. Et il y a un petit peu d'autres synagogues, il y a en particulier une petite synagogue Lubavitch, mais qui est dans un centre commercial, en fait, qui n'est pas du tout dans les endroits anciens. De toute façon, le ghetto a été rasé, et Varsovie elle-même, la ville de Varsovie, a été quasiment aussi rasée lors de l'insurrection de 1944. Et donc, il y a eu un grand article dans Le Monde, donc du 21 avril de cette année, bien sûr, sur les célébrations de l'insurrection du ghetto. Donc, je vais vous lire des extraits. En marge des commémorations officielles, le musée Pauline et la société civile polonaise œuvrent à la mémoire active de l'événement. Alors, le musée Pauline est un grand musée qui a été édifié dans le quartier qui était autrefois le quartier juif, mais dont il ne reste rien, donc Mouranov. Et c'est un grand, grand musée qui retrace toute l'histoire des Juifs de Pologne. L'idée était de ne pas se concentrer uniquement sur la Shoah, mais de montrer que la Pologne a accueilli les Juifs à un moment où ils étaient chassés des pays de l'Ouest. Et donc, ils y ont vécu quasiment 1000 ans, même si maintenant, il n'en reste plus beaucoup. Mais il y a eu une très, très longue, vie des Juifs en Pologne. Et ce musée, bon, c'est un musée qui est très, avec beaucoup de vidéos, pas tellement d'objets, mais qui est bien fait et qui retrace vraiment bien la vie de ces Juifs. Alors là, c'est l'article donc, de Hélène Bienvenue. Ils sont une centaine en cette matinée de mi-avril à se recueillir au cimetière juif de Varsovie, rue Okopova, quelques jours avant le 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Une poignée de curieux, d'officiels, de diplomates, de représentants d'associations juives et les membres du Sénat collectif, un collectif d'architectes et artistes engagés dans la préservation de la mémoire juive en Pologne. L'édifice en bronze, alors il y a eu un nouvel édifice qui a été construit là, en briques transparentes, qui évoque l'enceinte du ghetto et commémore la diversité des profils des membres Donetsk Shabbat. Alors, j'ai trouvé très intéressant que cet article s'intéresse justement à Onek Shabbat. Onek Shabbat est une réunion de personnes qui ont été réunies par Emmanuel Ringenblum, et qui va comme ils le décrivent, cette soixantaine de scientifiques, d'écrivains, d'historiens, de rabbins rassemblés autour de l'historien Emmanuel Ringelblum n'avait qu'un seul but, documenter la vie dans le ghetto et les massacres des juifs polonais sous l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce regroupement d'archivistes aura connu le même sort que les résidents des murs du ghetto dont ils faisaient partie. Privation, humiliation, famine, épidémie, déportation, extermination. Il n'y a effectivement que trois personnes de ces membres de ce Honnête Shabbat qui ont survécu. Donc c'est Rachel Auerbach, Hersch Wasser et sa femme. Et Emmanuel Ringelblum, lui, a été tué avec sa femme et son fils. Nous avons souhaité rendre hommage à ceux qui ont risqué leur vie pour révéler au monde entier la vie du ghetto, témoigne Natalia Romik, universitaire et architecte, co-auteur du monument. Certains étaient religieux, d'autres laïcs, de droite, de gauche, tous ont collaboré. Le 19 avril reste un jour particulier à Varsovie alors que les sirènes retentissent à midi pour commémorer le plus grand acte de rébellion juive de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne savais pas du tout qu'il y avait des sirènes pour commémorer.
C'est peut-être récent, ils ne l'ont pas toujours fait.
Oui, ça doit être relativement récent. Hein, donc, ça fait évidemment écho, si on peut dire, aux sirènes qui retentissent en Israël, le jour choisi pour la commémoration de la Shoah. Où là, effectivement, tout s'arrête. Hein, c'est extrêmement impressionnant de voir ça. Tout le monde s'immobilise et... La vie s'arrête. Bon, je pense que ce n'est pas le cas en Pologne, mais en tout cas, il y a des sirènes qui retentissent. Nous savions parfaitement que nous n'aurions aucune chance de l'emporter. Nous avons combattu pour ne pas permettre aux Allemands de décider seuls de la date et du lieu de notre mort, témoignera quelques années plus tard Marek Edelman, l'un des leaders de l'insurrection et l'un des rares survivants. Le 16 mai 1943, l'occupant nazi brûle les immeubles du ghetto 1 à 1. Donc, effectivement, Marek Edelman est un des rares survivants et c'est aussi un des rares juifs à être resté en Pologne après la guerre. Donc, il n'a jamais voulu quitter la Pologne. Il est resté malgré les vagues successives de départ dues à l'antisémitisme, et en particulier la dernière, lorsque le pays était dirigé par Gomulka, qui a lancé une campagne antisémite extrêmement violente, là nous sommes en 68, où vraiment quasiment tous les juifs qui étaient restés sont partis, y compris la femme et les enfants de Marek Edelman, et lui est le seul qui est resté, et il est mort récemment, il y a quelques années. Et donc, sa tombe est dans ce grand et magnifique cimetière rue Okopova, où il y a aussi la tombe, par exemple, de Peretz, de Isaac.
Mais parce que ce cimetière n'a pas été.
Non. Alors, le cimetière n'a pas été. Alors, le cimetière était collé au ghetto. Il y a eu encore des tombes. Normal, si je puis dire, en particulier celle de Tchernakov, donc qui était le responsable du ghetto et qui s'est suicidé. Donc lui, il a encore une belle tombe. Il y a aussi les tombes des soldats juifs tombés pendant la guerre, pendant l'invasion allemande de Varsovie, de la Pologne, où les Allemands ont écrasé les Polonais en quelques jours, mais il y a eu des morts, bien sûr. Donc ceux-là sont également enterrés. Il y a un monument à leur honneur. Et il y a après des fosses communes, des gens qui sont morts dans le ghetto.
Et il y a Zamenhof.
Oui, il y a une très belle tombe de Zamenhof. Oui,
il est mort avant la guerre.
Oui, oui, lui est mort bien avant. Oui, mais une très belle tombe de Zamenhof et de magnifiques tombes. Vraiment, j'ai découvert ça puisque nous avons un ami qui a été enterré. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à voir un aussi beau cimetière. Donc, ensuite, l'article rappelle le sort des juifs du ghetto. Donc, il y a eu 400 000 résidents dans le ghetto qui ont été presque tous déportés et assassinés à Auschwitz et Treblinka. Il en reste seulement 30 000 et 50 000 en septembre 42. Et donc là, les gens essayent de survivre. Et ensuite, il y a eu cette révolte du ghetto. Donc, il y a encore quelques survivants. Hein, donc, une dame qui s'appelle Christina Budnica, l'un des piliers de l'exposition. Cette dame de 91 ans raconte s'être réfugiée dans le bunker construit par ses frères dès le mois de janvier. Une cachette secrète qui a permis la survie de plusieurs personnes. Alors que les derniers témoins du ghetto de Varsovie s'éteignent les uns après les autres, la société civile, épaulée par quelques institutions, essaye de mettre tout en œuvre pour que la mémoire du ghetto et de son soulèvement perdure. Cette année, plus de 3000 bénévoles ont été formés pour distribuer des jonquilles en papier, symbole de la résistance armée dans le ghetto, et répondre aux questions des passants sur cette rébellion historique. Alors voilà quelque chose que je ne savais pas du tout non plus. L'événement a longtemps été éclipsé par l'insurrection de Varsovie survenue en 1944, mais les Varsoviens le considèrent désormais comme faisant partie de leur histoire. C'est ce que dit quelqu'un du Musée Pauline. Alors, cela n'est pas tout à fait exact, parce que, en fait, après la guerre, donc sous ce qu'on peut appeler l'occupation soviétique, en tout cas lorsque la Pologne faisait partie des satellites soviétiques, ce qui a été mis en avant, c'est justement la révolte du ghetto pour faire oublier, ou pour ne pas parler, de l'insurrection de Varsovie qui est survenue à peu près un an après, et où les Russes, qui étaient de l'autre côté de la Vistule, ont attendu que cette insurrection soit totalement écrasée par les Allemands pour intervenir. Donc, cela a été complètement masqué pendant des années. Par contre, il y a eu un monument du ghetto, montrant surtout la résistance, donc un monument dans le style soviétique, hein, très, très, très vieux.
Héroïque.
Héroïque, voilà, tout à fait héroïque, qui a été construit très vite après la guerre et qui était à peu près la seule chose qu'il y avait dans ce champ de ruines qui était le ghetto. Et c'est seulement en 90 que, lorsque la Pologne a retrouvé son indépendance, qu'a été mis en avant l'insurrection de 1944, qui jusque-là vraiment était plutôt ignorée. Et ils ont construit un musée de l'insurrection qui est, assez hyper réaliste. C'est-à-dire que quand on est dans ce musée, on entend des bombes qui tombent. Bon, c'est très bien fait. Il y a la liste des gens qui ont combattu, dont des Juifs, quelques Juifs qui avaient survécu au ghetto et qui ont rejoint les rangs des révoltés de 1944. Alors, ensuite, il parle d'un débat qui continue de diviser. La capitale polonaise a-t-elle besoin d'un musée consacré à son ghetto, tel qu'il a été lancé en 2018 par les ultra-conservateurs de Droit et Justice, le parti au pouvoir? Le musée du ghetto devrait voir le jour en 2026. Les historiens redoutent qu'il ne soit l'incarnation de l'amour polono-juif, comme l'avait annoncé en 2018 Piotr Gliński, ministre de la Culture. Alors là, nous sommes dans un débat qui agite maintenant la Pologne et les historiens depuis quelques années, c'est-à-dire que le gouvernement veut mettre en avant les Polonais qui ont aidé les Juifs. Il veut dire que s'il y a eu autant de morts en Pologne, c'était à cause des nazis et pas des Polonais, et qu'il y a eu beaucoup de justes Polonais qui ont aidé les Juifs. Alors, cela est vrai, il y a eu beaucoup de Polonais qui ont aidé les Juifs, et au risque de leur vie, c'est-à-dire que si un Polonais était pris en train d'aider un Juif, ne serait-ce que de lui donner un morceau de pain, il était immédiatement tué, et sa famille. Mais ceci dit, il y a aussi beaucoup de Polonais qui ont tué des Juifs, sans l'intervention des nazis, et cela a été démontré par toute une école de jeunes historiens polonais. Donc le gouvernement veut un peu nier l'histoire. On voit bien d'ailleurs que, comme on a vu avec les soviétiques, que la politique est vraiment influence beaucoup les recherches historiques et l'histoire. Voilà, donc j'ai consacré un long moment à cet article. On va peut-être écouter une musique.
Très intéressant. Il y a un très beau disque qui est sorti en 1993, donc au moment du 50e anniversaire de cette rébellion, Voices of the Ghetto. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle en anglais, hein, parce qu'il n'y a rien en anglais. Voix du ghetto avec les chanteurs français, en fait, les meilleurs de l'époque. Une certaine Rosalie Becker, qui a une formation classique, qui chante ça de manière très classique, mais c'est très joli. Ben Zimet, Hélène Engel, que j'ai très bien connue, que je connais très bien, elle habite au Canada maintenant, au Québec. Jacques Robert, qui est là, c'est décidé. Talila, et puis deux hommes que je connais moins bien, Frank Hagendorf et Émile Katzmann. Alors, bon, j'ai choisi pour commencer Gehat Hobir Aheim, une chanson sur les destructions, si c'est avant les massacres. Ça a été écrit dans le camp de Lagewniki, près de Cracovie, donc dans un ghetto. J'avais une maison et elle a été démolie. Voilà, c'est une complainte, une plainte. Et ici, c'est chanté par Talila.
Gehat bich haheim, ashtiku roim Abissl wirtschaft wie barmeleit Zugebung wurzeln zu aboim Hab ich mich mit mein bissl urem keit Gekummen es einen See mit Hass und Teut Mein Orem Stickel heim, muss ich verwog, muss ich mit mir hab ich auch lang gebeut, vernichtet haben sie das in ein Tor. Gehat bich haheim, ashtibu nakich Und still gelebt, so sich jung lang Gehat viel gute Freien, haver immer sich Ashtibu voll mit Lieder und Gesang Gekommen es einen See, wie kommen wollte a Pest A Reus gejogt von Stott mit Wein und Kind Geblieben daheim, befeigt und ein Nest Nicht wissendig, für was, für welche sind Gehat bich haheim, jetzt hab ich sie nicht mehr. Ein Spiel gewein, versehe mein Untergang. Ich such jetzt ein neues Heim, doch schwer, sehr schwer. Und ich weiß nicht wo, und ich weiß nicht wie lang.
Voilà, donc je vais parler un petit peu de ce Honnête Shabbat, donc, qui a été créé par l'historien Emmanuel Ringenblum. Je m'appuie sur un livre tout à fait remarquable qui s'appelle « Qui écrira notre histoire ? Les archives secrètes du ghetto de Varsovie » de Samuel Kassoff. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 2007 en anglais, traduit en français en 2011 et publié aux éditions Grasset. Un livre tout à fait remarquable, très détaillé, qui parle d'Emmanuel Ringenblum et aussi de cette activité du Honnête Shabbat. Alors, qui est Emmanuel Ringenblum ? Il est né en 1900. C'est quelqu'un qui a fait des études d'histoire, de sociologie, qui était aussi dans des organisations sionistes, dans des organisations d'aide, quelqu'un de très très actif dès son jeune âge. En 1920, il fait connaissance de sa femme qui s'appelle Yehudit et ils auront ensemble un garçon né en 1935, Uri. Alors, il a été influencé par le grand historien Dubnov. Il a aussi participé au YIVO. Le YIVO, c'est une association qui s'occupe essentiellement des aspects linguistiques du yiddish. Et il a fait aussi partie de l'Allein Hilfe, donc une organisation d'aide. Et il a travaillé aussi pour le Joint, donc le Joint qui est une association américaine, donner de l'argent pour les juifs dans le malheur, et en particulier les juifs polonais. Et le célèbre photographe Wisniak a aussi travaillé pour le Joint. Alors, en août 1939, Ringelblum n'est pas en Pologne. Il se trouve à Genève, pour une réunion de l'association des Link Poel et Zion, c'est-à-dire une association de sionistes de gauche. Et il y a évidemment les menaces de guerre, hein, on est en août, donc la guerre est très très proche. Et on lui propose de rester, mais il ne veut pas parce qu'il y a sa famille, sa femme et son fils sont en Pologne, sont à Varsovie. Donc, il rentre à Varsovie. D'ailleurs, ce n'est pas facile parce qu'ils sont venus en traversant l'Allemagne, mais là, on ne peut plus traverser l'Allemagne. Donc, ils font tout un parcours. Il arrive à Varsovie quasiment la veille de la guerre. Et lui, en fait, pensait que l'armée polonaise pourrait résister aux Allemands, ce qui n'est absolument pas le cas, comme on le sait maintenant. Et au moment où les Allemands arrivent, il y a tout un grand mouvement, en particulier d'intellectuels, de politiques, vers l'Est. Hein. Donc les gens partent se réfugier en Union soviétique, où leur sort ne va pas toujours être facile. Hein. Les bundistes en particulier vont être assassinés par Staline. On les a envoyés très très loin vers l'Est, dans des régions peu hospitalières, mais quand même... On peut dire que les Juifs polonais qui ont survécu sont ceux qui ont réussi à partir vers l'Union soviétique. Il y en a environ 400 000. Et Ringelblum refuse. Ringelblum dit que lui doit rester pour aider ses compatriotes, enfin ses coreligionnaires, en Pologne. Et donc, il va y avoir le ghetto dans lequel il va être enfermé. Pour finir, il arrivera à sortir du ghetto, il va être caché dans un bunker, mais il va être découvert et assassiné, donc je crois en 1944, lui, sa femme, son fils et la famille des gens qui les ont cachés. Mais il aura eu le temps d'écrire beaucoup pendant toute cette période et aussi de composer donc cette association, enfin ce groupe, hein, qui est un groupe informel, on peut dire, hein, qui s'appelle le... Onek Shabbos, parce qu'il se réunissait à Shabbat, qui va réunir toutes sortes de personnes avec vraiment l'idée de rassembler des témoignages sur cet événement absolument tragique et inédit que sont en train de vivre les Juifs en général et les Juifs de Varsovie en particulier. Donc je vais juste lire comment Ringelblum présente son Onek Shabbos. La majorité de nos collaborateurs permanents, quelques douzaines, étaient recrutés dans les rangs de l'intelligentsia populaire, Volksk Intelligenten, parce qu'il écrit en yiddish, hein, essentiellement dans les partis prolétariens. Nous évitâmes à dessein d'inviter des journalistes professionnels parce que nous ne voulions pas voir notre travail déconsidéré et dénaturé. Nous voulions le récit le plus simple, avec le moins de fioritures possible de ce qui se passait dans chaque shtetl et de ce qui arrivait à chaque juif. Et dans cette guerre, chaque juif est un monde en soi. Tout mot superflu, toute exagération littéraire agacée est repoussée. La vie juive au cours de la guerre est si dense en événements qu'il est inutile d'ajouter une phrase supplémentaire. Et puis une fois encore, on se posait le problème du secret. Les journalistes, on le sait, ont un problème avec ça. Alors, je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais en tout cas, il se méfiait des journalistes, ce qui ne l'a pas empêché d'associer plusieurs écrivains et journalistes à son entreprise, tant comme intervieweur que comme auteur, Peretz Opochinski, Shie Perl, Rachel Auerbach, Leib Goldin, Yehuda Feld et Moshe Skalov. Voilà, nous allons arrêter là et puis je parlerai la prochaine fois. On va consacrer une émission entière justement à Rachel Auerbach, une femme tout à fait remarquable. Mmh. Et qui a participé à cet Oneg Shabbat et qui est, comme je l'avais dit déjà, une des seules survivantes de cette entreprise. Voilà, je ne sais pas si on a le temps d'écouter encore une chanson.
Une petite chanson, au moins le début, oui. Alors, c'est « Lied von unbekannten Partisan », la chanson du partisan inconnu. Je lis là sur la plaquette « Ce chant, repris dans les ghettos de Vilno et de Kaunas, est adapté d'une chanson yiddish consacrée à la guerre civile espagnole. » Donc, c'est intéressant. Ici, c'est chanté par Rosalie Becker, une très belle chanteuse qui vient du classique. C'est en fait une berceuse qu'on demande à l'enfant de dormir jusqu'à ce que le ciel le soleil se lève à nouveau, et tout en lui disant les réalités, c'est-à-dire que le père a déjà été déporté.
Et avant peut-être de terminer l'émission, on va faire un rappel rapide de notre concert, le concert de la Chorale Lomierzingen, donc
très
le
juste.
Jeudi 4 mai, 19h, à l'église protestante.
Saint-Pierre le Jeune, protestante, au lieu de dire tout ça, on n'a qu'à dire église Sofitel, hein, puisqu'on est toujours obligé de préciser quand même la très belle église de Strasbourg, en marge de l'exposition de... Francine Mérand, qui est magnifique. Alors, vous êtes invité dès 18h à une visite guidée que fera Francine elle-même, et c'est suivi de notre concert à 19h.
Shalom Aleichem, à la semaine prochaine. Merci.
Schlaf, mein Kind, schlaf wieder ruhig ein. Bis die Nacht und die Levone scheint, auf dem Himmel glanzen Sternen, guck nicht, Kind, auf meine Tränen. Schlaf, mein Kind, schlaf wieder ruhig
chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.